archives de l'écologie. François Bernard.
Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Les populations affectées par la guerre qui se poursuit au Moyen-Orient font face à deux problèmes majeurs, l'accès à l'eau et à l'approvisionnement en nourriture. Un problème récurrent dans toutes les crises humanitaires, comme va nous le rappeler notre archive cette semaine. Cette menace prend un tour particulier dans la guerre qui se poursuit aujourd'hui puisque les pays du Golfe Persique connaissent des stress hydriques récurrents et ont recours à des usines de désalinisation pour subvenir aux besoins de leur population. Ces usines sont parfois la cible des bombardements et l'inquiétude monte dans la région si ces destructions devaient se poursuivre à grande échelle. Ce qui est vrai aujourd'hui l'était aussi dans le passé. La question de l'eau est une préoccupation majeure. Dans les archives de l'écologie, nous faisons un bond dans le passé pour retrouver, en mars 2003, l'équipe de Fréquence Terre qui s'intéresse à la gestion de l'eau en période de crise humanitaire. On écoute ensemble ce reportage et on se retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Pour continuer notre série d'évocations sur le thème de l'eau, je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Hubert Sagnon, de l'organisation non gouvernementale Action contre la faim.
Il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à une eau de qualité, 2 milliards et demi de personnes qui n'ont pas accès à des infrastructures sanitaires. La conséquence de tout ça, c'est plus de 80% des maladies dans les pays du Sud sont liées à un problème d'eau. C'est aussi 2,2 millions de personnes, dont 90% d'enfants, qui meurent de conséquences de maladies diarrhéiques, dont la cause principale est un non-accès à l'eau potable et un mauvais environnement sanitaire.
Au dernier sommet mondial du développement durable à Johannesburg, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, déclarait que près de 15 000 personnes mouraient chaque jour de maladies transmises par l'eau, soit 10 fois plus que de tuées par la guerre, du moins à ce moment-là. Bien que 2003 ait été déclarée année internationale de l'eau douce et que de multiples manifestations comme la Journée de l'eau ou le 3e Forum mondial de l'eau à Kyoto tentent de sensibiliser le monde à l'importance vitale de l'eau, de nombreux problèmes subsistent. La gestion de l'eau, qui est un enjeu majeur de santé publique et de sécurité alimentaire, est évidemment au cœur des préoccupations des ONG comme Action contre la faim, qui interviennent essentiellement dans des pays en crise. Explication et présentation d'Action contre la faim par son responsable eau et assainissement, Hubert Sagnon.
Action contre la faim est une association humanitaire qui a pour vocation d'assister les personnes qui souffrent de la faim dans le monde entier. Action contre la faim, c'est environ 320 volontaires expatriés qui travaillent sur le terrain dans 38 pays. C'est aussi environ un peu plus de 4000 employés nationaux. C'est dans chacun des pays, on travaille beaucoup avec les gens du pays. Donc c'est plus de 4000 personnes. Donc les corps de compétences d'Action contre la faim pour lutter contre ce fléau qu'est la faim sont la nutrition, qui a une action plus curative des conséquences de la faim, la sécurité alimentaire, qui, elle, est plus une action préventive, c'est-à-dire empêcher que la faim arrive et qu'elle ait des conséquences trop graves, et le département eau et assainissement aussi, qui participe aussi à cette action préventive. L'Action contre la faim est présente dans toutes les interventions d'urgence, dans toutes les grosses crises, que ce soit catastrophes naturelles qui touchent des pays du Sud ou que ce soit des conflits ouverts. Donc là, quand il y a un risque sanitaire, quand il y a un risque d'épidémie, quand il y a un risque de mort directe par manque d'eau dans les périodes de sécheresse par exemple, là, Action contre la faim intervient et développe des projets d'eau et d'assainissement.
Ça peut paraître paradoxal de s'occuper d'eau quand on est une ONG qui se nomme Action contre la faim. Pourtant, l'organisation qui intervient sur tous les continents et sur toutes sortes de situations doit nécessairement gérer la question eau pour faire face aux crises.
En dehors de ces crises aiguës où vraiment on apporte de l'eau pour sauver des vies de façon directe, Action contre la faim développe aussi des projets ou assainissement dans des pays plus calmes, mais où on rencontre des problèmes de malnutrition. En Éthiopie, dans la zone Afar, au sud de Djibouti, là on développe des projets d'eau pour les gens, mais aussi pour les animaux. On essaie de construire des infrastructures dans les différentes zones où les gens évoluent avec leurs troupeaux durant l'année, saison sèche, saison des pluies. En parallèle de ça, on a un projet de santé animale pour renforcer la production animale. Et c'est vrai que cette action combinée de l'eau pour les animaux, là où il y a les pâturages, mais aussi là où il y a les habitations et de la santé animale, renforce la productivité animale de ces populations et donc garantit leur sécurité alimentaire. Ensuite, il y a l'aspect santé publique, donc qui conditionne le développement de la malnutrition. Et là, la qualité de l'eau est un enjeu évident. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, 80% des maladies sont liées à l'eau. Donc il est évident qu'en améliorant la qualité de l'eau, en améliorant l'environnement sanitaire, on diminue très fortement le risque de développement de la malnutrition. Je prendrai l'exemple de Kaboul. Kaboul, aujourd'hui, est plutôt calme, même si le reste du pays reste assez tendu, notamment dans le sud et dans le nord. Kaboul est assez calme et par voie de conséquence, la nourriture disponible sur les marchés a un prix à peu près accessible. Et malgré tout ça, on observe des taux de malnutrition extrêmement élevés, comparables à ceux qu'on peut trouver dans les gros conflits, dans les grosses crises. Donc l'analyse qu'on est en train de mener, mais sur laquelle on a déjà réfléchi, tend à prouver qu'en fait la cause principale de cette malnutrition est l'environnement sanitaire. C'est-à-dire que durant l'été, saison sèche, saison chaude, la ressource en eau diminue, la qualité de l'eau diminue aussi puisque cette ressource diminue. On observe des pics de diarrhée très importants, donc qui dit diarrhée dit problème d'environnement sanitaire et de qualité d'eau. Et peu de temps après, survient la malnutrition. Donc là, concrètement, on voit que l'activité eau et assainissement entre en jeu pour lutter contre la malnutrition. Et enfin, le troisième aspect, c'est tout l'environnement social qui conditionne aussi la malnutrition. Donc là, de manière plus générale, ça peut être la place des femmes dans la société, ça peut être des stress durant la guerre, donc tout l'aspect mental, l'aspect équilibre, santé mentale, l'aspect social. Et là, l'eau intervient par le biais des corvées. C'est-à-dire que si quotidiennement les femmes, les enfants doivent marcher plusieurs heures pour aller chercher l'eau, cela crée un stress physique, mais aussi un stress moral qui favorise à terme le développement de la malnutrition, entre autres. Dans la région Afar d'Éthiopie, les gens marchent plusieurs heures avec leurs chameaux et vont recueillir l'eau de ces steam wells, donc des puits de vapeur. Donc en fait, ils construisent des petits réceptacles de pierre qui ont pour but de condenser cette vapeur d'eau. Et ils récupèrent de l'eau à 70 degrés, qu'ils chargent dans leur réservoir et qui ramènent à plusieurs heures de chameaux dans les villages. Donc dans ce contexte-là, on a fait une intervention d'urgence. Donc on a installé nos réservoirs, qu'on a remplis d'eau. Et au moment le plus fort de la sécheresse, les gens n'utilisaient pas l'eau, ou très peu d'eau. Et en fait, quand les pluies ont commencé à tomber, les gens se sont mis à utiliser l'eau. Et en fait, a posteriori, on a repensé un petit peu comme ces pastoraux, comme ces nomades habitués à vivre en saison sèche, habitués à gérer l'eau de manière la plus stricte possible. Et en fait, le raisonnement qu'ils ont eu, c'est au plus dur de la saison sèche, quand ils ont vu qu'on leur mettait à disposition des réservoirs d'eau, ils se sont dit, on est sûr que cette eau, elle est là, elle existe, elle ne sera peut-être pas renouvelée, donc on ne va pas l'utiliser. Et on va utiliser au maximum le peu d'eau qui reste dans nos puits, le peu d'eau qui reste dans nos mares, le peu d'eau qui reste dans la rivière. Et surtout, ne touchons pas à cette réserve-là. Au moins, on est sûr d'avoir un certain nombre de mètres cubes d'eau en réserve.
Concrètement, en quoi consiste la mise en œuvre sur place de ces programmes d'intervention ?
Dans les phases d'urgence, il est vrai que l'objectif est de donner suffisamment d'eau aux populations pour éviter tout risque sanitaire. taux risque de développement d'épidémie, taux risque majeur de santé publique. Donc là, on va étudier la ressource, c'est-à-dire quelle est la meilleure ressource à utiliser. Est-ce que ça va être les eaux souterraines, un aquifère superficiel, un aquifère profond? Est-ce que ça va être l'eau de surface, une rivière proche qu'on va traiter et ensuite transporter par camion jusqu'au camp? Donc là, il est vrai que l'enjeu est avant tout technique. On met tout en œuvre tous les moyens possibles pour arriver à satisfaire les gens. Et au regard de cette étude de l'environnement naturel, on va prendre en considération les aspects culturels, les aspects économiques, les aspects sociaux aussi. Et donc là, c'est là que c'est très intéressant, puisqu'il faut trouver la juste mesure entre les contraintes que nous impose l'environnement naturel et les contraintes que nous impose l'environnement socio-économique et culturel des populations. Donc là, les contraintes principales, c'est que les populations soient à même, déjà que les populations acceptent le système qu'on va mettre en place. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup des cultures très fortes qui se bloquent, qui n'ont pas accepté un certain type d'ouvrage. Ensuite, il y a l'aspect maintenance. Et là, il faut qu'il y ait un certain niveau technologique, une certaine compréhension d'un système mécanique, que ce soit une pompe, même si elle est manuelle, même si elle est très simple. Ça peut être complètement ingérable par des communautés très, très éloignées, très traditionnelles. Et aussi l'aspect économique, c'est-à-dire que si l'entretien ou la maintenance ou les frais d'opération nécessitent de l'argent, nécessitent d'acheter du diesel, nécessitent des choses comme ça, à ce moment-là, il faut prendre en considération la potentialité économique de la zone pour savoir si notre solution est adaptée. Donc vraiment, quand on est dans ces problématiques court terme, moyen terme, il faut vraiment balayer tout cet environnement et c'est intéressant de jauger justement ces deux aspects du contexte.
Pour illustrer ce rapport à l'eau, je vous propose d'écouter, au travers de la traduction de mon ami Moussa Maïga, les propos de M. Modibo Karambe, le chef du village de Biandiougou, un important village de la Falaise, en pays d'Ogon, dans le Nord Mali, où nous nous étions rendus en pleine période de forte chaleur.
Traditionnellement, l'eau, c'est dit chez nous d'Ogon, c'est la vie même de tout un peuple. On l'appelle en Ogon ni. Donc ni koi er moyen gine. Donc ni korale kine kor. Kine mandu ni. Donc ce qui veut dire que la vie même sans l'eau, il n'y a pas de vie. C'est ce que ça veut dire.
Il y a un réel problème d'eau ici parce que pendant toute la saison sèche, c'est le maraîchage qui constitue la principale activité et des hommes, et des femmes, et des enfants. Et puisqu'il n'y a pas d'eau, donc le maraîchage même souvent se trouve compromis parce que c'est la deuxième source de revenus des villageois après la culture du mil. Ils insistent sur le problème d'eau parce que sans eau, aucun développement ne peut se faire. Parce qu'ils sont sur une colline et les puits sont tout autour du village, au niveau dans la plaine. Et assez souvent, les puits là arrivent à sec et il y a un très grave problème d'approvisionnement. Les femmes sont obligées de partir jusqu'à 6-7 km pour chercher de l'eau. C'est réellement un problème. Ils ne savent pas comment résoudre ça. Bon, il donne une réponse très précise. Il dit qu'actuellement, la population a augmenté. Le bétail a augmenté et la pluviométrie diminue d'année en année. Donc forcément, ça va amener un problème d'eau.
Bien sûr, une des problématiques évidentes, c'est la sécheresse. Qui dit sécheresse dit manque d'eau. Et donc nous, dans ces cas-là, on essaie d'apporter de l'eau aux populations, enfin de construire des infrastructures leur donnant l'accès à l'eau. Et ce qui était intéressant en Afghanistan, qui vient de subir une sécheresse de 5 ans, qui a priori vient de se terminer, on espère que ça va se confirmer l'année prochaine, mais cette année, l'hiver a été pluvieux et le printemps aussi, donc c'est une bonne nouvelle. Mais donc ces deux dernières années, on a travaillé donc, dans le centre du pays et le sud du pays qui étaient particulièrement touchés par la sécheresse. On a discuté avec les gens, comme toujours, pour essayer de voir quel type de projet on pourrait mettre en œuvre. Et eux, leur grosse préoccupation, c'était l'érosion des sols suite aux premières pluies. Parce que quand il y a une sécheresse de quelques années, qui dure assez longtemps, les sols s'endurcissent, donc il y a beaucoup de ruissellement. La végétation, des fois, va jusqu'à disparaître. Et donc, la première eau qui tombe, au lieu de s'infiltrer, va ruisseler et va se concentrer dans les talwegs, va se concentrer dans les petits ruisseaux. Et au bout du compte, de petits ruisseaux en petits ruisseaux, on aura des torrents importants et on a des glissements de terrain, on a des érosions des sols assez, assez importantes. Et donc, qui dit érosion des sols, dit diminution des terres cultivables. Donc c'était intéressant où nous, on était obsédés, nous, humanitaires venant d'un pays où il y a de l'eau, on débarque dans un pays sec, subissant la sécheresse, on dit il faut vous apporter de l'eau, il faut vous apporter ci. Et eux, ils disaient non, nous, pour l'instant, notre préoccupation, l'eau, on arrive encore à trouver des points d'eau suffisamment pour survivre, mais notre grosse préoccupation, c'est ce qui va se passer quand les pluies reviendront. Et donc ils intégraient déjà le risque qu'ils allaient encourir avec le retour des pluies. Donc là, c'est intéressant aussi de voir qu'il ne faut pas non plus se baser sur une analyse contextuelle à un moment donné, purement environnementale au sens naturel du terme, mais toujours impliquer les populations avec lesquelles on travaille pour voir justement comment eux voient la problématique et quel est pour le problème le plus important. La problématique de l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori, ne se réduit pas simplement aux zones très sèches, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'eau, c'est un problème, et quand il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Non, nous, on intervient beaucoup en zone intertropicale humide, donc en Asie du Sud-Est notamment, mais en Afrique aussi. Et là, on a tous ces problèmes de qualité d'eau dus au développement bactérien, dus à la chaleur. On a aussi des cas assez particuliers des inondations, où là, la conséquence, un des problèmes majeurs quand on a une inondation, c'est de trouver de l'eau propre. Donc nous, on est intervenu récemment, 2 ans de suite, en 2000 et en 2001, au Mozambique, où toutes les infrastructures d'eau étaient, toutes les pompes, tout était immergé, tout était sous l'eau, et donc les gens n'avaient plus accès à l'eau potable. Et on a eu des situations assez intéressantes, où une zone où on avait travaillé pendant 6 ans auparavant, donc on avait appris aux gens à utiliser l'eau, à ne pas aller à la rivière, mais aller à la pompe. Et là, c'est intéressant parce qu'on a pu aussi mesurer l'impact de notre projet. Et donc, je me trouvais donc en 2001 dans la province du Zambèze, à Kaya. Et on voyait des gens qui allaient chercher de l'eau. Donc, tout était inondé. Il y avait simplement les terres hautes qui émergeaient. Et les gens allaient chercher l'eau en bateau, à la pompe à main. Donc, ils faisaient 300 mètres à bord du bateau avec leur jerrycan. Ils allaient là. Depuis le bateau, ils pompaient, ils actionnaient la pompe à main, ils récupéraient l'eau et la ramenaient au village. Donc là, c'était intéressant parce que les gens avaient pris conscience que malgré le fait qu'il y ait de l'eau partout, qu'il y ait un surplus d'eau, l'eau était quand même une denrée précieuse et ils faisaient un effort pour aller la chercher assez loin. Donc en conclusion, on peut voir que l'enjeu de l'eau dans le monde est crucial, surtout dans les pays qui n'ont pas la chance d'avoir des gouvernements qui développent un service public pour leur donner l'accès à l'eau potable. Donc les grandes problématiques de l'eau, d'abord c'est l'eau comme aliment. Donc quand il y a une mauvaise qualité ou quand il est en quantité insuffisante, il y a évidemment un problème humanitaire qui surgit derrière à la clé. C'est l'eau aussi, c'est l'accès, c'est tout le temps perdu, l'argent perdu, l'énergie perdue à aller chercher de l'eau, donc il y a un manque à gagner économique, mais aussi pour l'éducation, pour toutes d'autres choses qui font le développement socio-économique d'un pays. L'eau, c'est aussi la production animale et la production agricole, donc c'est la mise à disposition de nourriture pour les gens. Donc voilà un petit peu les trois grandes problématiques de l'eau. Maintenant, par rapport à l'intervention, nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, ce qui est intéressant, donc, c'est de prendre en considération à la fois l'aspect environnemental, c'est-à-dire l'eau comme ressource, c'est-à-dire qu'une ressource qu'on gère, qu'on doit chercher, qu'on doit trouver. Parfois, c'est difficile. Parfois, on met en œuvre des moyens techniques très évolués, comme la géophysique. Donc, une ressource avec laquelle on travaille. On utilise aussi la connaissance locale des gens pour savoir où se situent les ressources, comment ils anticipent leurs problèmes d'eau à venir. Et ensuite, dans la définition de la réponse technique, tout l'aspect de l'étude culturelle, l'aspect de l'étude socio-économique des populations avec lesquelles on travaille, pour faire en sorte que la réponse qu'on donne soit acceptée, soit considérée par les populations, soit adaptée, et qu'eux-mêmes, ensuite, ces personnes puissent gérer à long terme ces infrastructures pour garantir le plus longtemps possible l'accès à l'eau qu'on essaye de leur donner.
Ainsi se termine votre rendez-vous hebdomadaire avec l'environnement. Fréquence Terre recevait cette semaine Hubert Sagnon de l'organisation Action contre la faim sur une réalisation de Marie David, un mixage d'Assia Ralid et une présentation d'Arnaud Jouve. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage produit en mars 2003. On comprend facilement l'importance de l'accès à l'eau et les conséquences majeures que pourrait avoir la destruction des usines de désalinisation dans la zone de guerre actuelle au Moyen-Orient. Cela provoquerait des crises humanitaires immédiates, un effondrement des infrastructures sanitaires et par conséquent une instabilité sociale et politique. Le manque d'eau est un facteur de tension majeur, sans compter les risques environnementaux liés au rejet non contrôlé des produits chimiques issus des usines endommagées et la surexploitation des nappes phréatiques restantes. Bref, ce serait une catastrophe qui viendrait s'ajouter à une situation déjà dramatique. Voilà pour les archives de ce samedi. Merci d'écouter Alternante en direct sur 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire ou en podcast sur le site alternantefm.fr. On est d'accord, les nouvelles du monde ne sont pas bonnes. La guerre est une source de drames, de nuisances, de pollution extraordinaire. Il faut pourtant trouver des raisons d'espérer et d'être positif. Et puisque nous avons parlé de l'eau, eh bien, plongeons-nous en chanson pour finir dans la plus grande et la plus belle de ses sources, la mer, celle de Charles Trenet.
La mer.
À la semaine prochaine.
Qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants. La pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. C'est mon cœur pour la vie.